s'appelle Guillaume de Puymarais, Guillaume de Saint-Luguet, seigneur de Puymarais, et qui habite Paris. Alors il sert d'intermédiaire entre ses parents du Limousin et puis ses gens de Bruxelles. Et donc ses lettres, elles s'étalent de 1755 à 1760, il y en a une quarantaine, et elles sont surtout intéressantes pour l'histoire de l'époque, parce qu'elles reflètent les préoccupations des gens de cette époque, et surtout, c'est à la veille de la création de la Société d'agriculture de Brive, et Guillaume de Puymarais est le membre correspondant de la Société d'agriculture à Brive, à Paris. C'est avant qu'elle se crée, mais on sent qu'il y a déjà les préoccupations de cette Société d'agriculture, et que cette Flamande, cette Belge, qui vit dans un pays extrêmement riche, elle est pour les Limousins une espèce d'exemple, parce que dans son pays, dans la Flandre et dans le Brabant, il y a des cultures qu'on ne fait pas en Limousin, qu'on va essayer de faire. À partir du moment où la Société de la culture se crée, et tout ça, c'est un peu dans ses lettres. Alors, je vous ai fait un petit résumé, si vous voulez, ou un petit, une petite série de papiers pour que je vous explique un peu cette famille. Alors, en couverture, donc, je vous ai mis tout simplement Madame de Pompadour, parce que nous sommes exactement au moment où commence le règne personnel de Louis XV. Jusque-là, c'était le cardinal Fleury qui était un peu Premier ministre, et puis Louis XV ne faisait rien. Mais c'est l'époque donc où Louis XV prend vraiment le pouvoir, et il le prend avec sa maîtresse, Madame de Pompadour, donc, qui est, comme vous le savez sûrement, une protectrice des arts, des lettres, et surtout des encyclopédies, des gens comme Diderot, Voltaire, etc. Nous sommes en plein dans l'époque où commence donc toute cette fermentation intellectuelle et artistique autour de Louis XV. Voilà pourquoi je vous ai mis Madame de Pompadour. Et je vous l'ai mis aussi parce que c'est vraiment une époque où la mode était magnifique. C'est pas si gonflé et raide qu'au temps de Louis XIV. Les robes des femmes sous Louis XIV, c'était très... c'était pas souple, c'était très rigide, il y avait des espèces de paniers sur les côtés, il y avait un corset extrêmement serré, c'était pas très joli. Et plus tard, sous Marie-Antoinette, à partir de 1770, la mode, elle recommence à devenir un peu trop abondante. On se fait des coiffures gigantesques, sur les robes, il y a une quantité de décoration, des fleurs, des choses comme ça. Madame de Pompadour, elle avait un goût exquis, on peut dire. Elle aimait certaines couleurs. Il y avait en particulier un jaune, paraît-il, qu'elle avait mis à la mode, et que du coup, il était extrêmement difficile de trouver, mais que tout le monde voulait avoir. Et puis, elle avait surtout mis à la mode le fait que tous les hommes changeaient de couleur, et que donc les femmes se jugeaient, si elles n'avaient pas réussi à trouver la bonne étoffe, elles se jugeaient démodées. Il suffisait qu'elles soient reparties dans leur province pendant 6 mois, et quand elle revenait à Paris, top, la mode avait changé. Donc elle a fait beaucoup travailler les artisans. Évidemment aussi, elle a fait perdre beaucoup de dépenses. Tout le monde sait que Madame de Pompadour, elle était vraiment très dépensière. Enfin, Louis XV était d'accord. Vous voyez le style de sa robe, c'est très joli. Et alors elle affectionnait surtout les satins et les choses de ce genre, les tissus un petit peu brillants. En dessous, je vous ai mis celui par lequel ou à cause duquel toute cette histoire nous arrive, c'est-à-dire Jean-Baptiste Joseph de Saint-Luguet d'Espagnac. Ce Jean-Baptiste Joseph de Saint-Luguet d'Espagnac, c'est donc le frère du Guillaume dont je vous parlais tout à l'heure, et qui était seigneur de Puymarais. Lui, il est dans l'armée depuis l'âge de 14 ans, et il est en 1745. Nous arrivons donc dans la période qui nous intéresse, aide de camp du maréchal de Saxe, Maurice de Saxe, qui est le plus grand général de Louis XV. Il est malheureusement mort en 1750, et à partir de sa mort, nos guerres sont des guerres de défaite. Mais lui, ça a été celui qui nous a eu des victoires. Alors donc, ce personnage, Jean-Baptiste Joseph de Saint-Lizier, aide-de-camp du premier maréchal de France, vous voyez, de celui qui dirige l'armée, c'est quand même quelque chose d'important. C'est un Limousin, c'est un bréviste. Nous sommes donc en 1745, commence la guerre qu'on a appelée la guerre de succession d'Autriche, et dans cette guerre, la France est alliée avec la Prusse contre l'Autriche, l'Angleterre et la Hollande. La guerre commence, comme d'habitude, du côté de l'Alsace-Lorraine. La France n'a pas de succès particulier. Et le maréchal de Saxe décide alors d'attaquer les Pays-Bas autrichiens. Les Pays-Bas autrichiens, c'est l'actuelle Belgique. Nous étions donc en guerre avec l'Autriche. Et pour les embêter, si on peut dire, on déclare pas attaquer la Belgique. Alors, comme d'habitude, quand on attaque la Belgique, les Anglais s'excitent. Parce que les Anglais sont persuadés, vous savez, que la Belgique, c'est le chemin direct pour aller en Angleterre, et ils nous ont toujours empêchés d'avoir la Belgique. Malheureusement pour nous, si on a le goût de la conquête, malheureusement pour nous aussi, Louis XV déclare dès le départ qu'il n'a pas l'intention de faire une guerre de conquête, comme son arrière-grand-père Louis XIV. Alors, en Europe, tout le monde se moque de lui. Mais enfin, bon, on sait que si on fait la guerre en Belgique, ça ne sera pas pour conquérir la Belgique, ça sera pour aider Marie-Thérèse d'Autriche à devenir donc impératrice d'Autriche. Maurice de Saxe entre en Flandre donc et en Brabant, en Belgique. Il bat les Anglais à Fontenoy. On a appelé cette guerre la guerre aux dentelles. Parce qu'à Fontenoy, les Anglais nous ont dit « Messieurs les Français, tirez les premiers !» Et on leur a répondu « Messieurs les Anglais, tirez les premiers !» Mais on s'est tiré dessus quand même. Et le résultat, c'est qu'on a en principe battu les Anglais. C'est généralement ce qu'on fait sur terre, sauf à Waterloo. Et les Anglais rembarquent. Il reste donc contre nous les Autrichiens et les Hollandais. Ils se sont retranchés dans la ville de Bruxelles. Et Maurice de Saxe décide d'attaquer Bruxelles. Ce qu'il fait et qui n'est pas courant, c'est qu'il attaque en plein hiver. Normalement, à cette époque, en hiver, on s'arrêtait complètement de faire la guerre. On prenait ce qu'on appelait les quartiers d'hiver, c'est-à-dire qu'on logeait tant bien que mal les soldats dans des fermes à la campagne, au grand déplaisir des paysans d'ailleurs, parce que c'était très mauvais pour eux. Et puis les officiers allaient se loger en ville. Il décide de faire cette campagne l'hiver. C'est une campagne secrète. Il n'a prévenu que le ministre des Affaires étrangères. Il n'a même pas prévenu Louis XV. Et il profite du fait qu'au mois de décembre, tout autour de Bruxelles, les canaux sont gelés. Et donc, il peut faire passer ses convois d'artillerie sur ces canaux. Bruxelles, comme toutes les villes de l'époque, était complètement entourée de fortifications. C'était pas facile à prendre, non seulement entouré de canaux, mais aussi de fortifications. Et il y en avait une énorme au nord de Bruxelles, donc du mauvais côté par rapport à la France, qui s'appelait la Grande Corne, qui était donc une véritable forteresse qui défendait Bruxelles. Alors, pendant tout le mois de décembre, janvier, ils vont donc avancer autour de Bruxelles. Une deuxième spécialité de Maurice de Saxe, et du même coup de Jean-Baptiste Joseph Saluguet, c'est qu'ils ont prévu que les soldats seront payés. Et ils sont payés avec 15 jours d'avance. D'autre part, ils ont prévu qu'ils seront nourris. Et enfin, qu'ils seront logés. Et ça, ce sont trois choses qu'on ne faisait pas en temps de guerre, tout simplement parce que les soldats se nourrissaient sur l'habitant, se payaient en pillant les divers monastères ou églises qui se trouvaient dans le secteur et se débrouillaient comme ça. Enfin, c'était la guerre habituelle de ce temps-là. Donc Maurice de Saxe, vous voyez, il a inauguré un type de guerre plus moderne, si on peut dire, ou en tout cas plus humaine. Alors, il va se mettre donc à bombarder sa grande corne et au mois de... À la fin du mois de janvier, les défenseurs de cette forteresse battent la chamade battre la chamade, ça voulait dire, ça y est, je renonce à continuer. Et ils arborent aussi un pavillon blanc. On comprend ce que ça veut dire, la forteresse s'est rendue. Bien entendu, Bruxelles n'est pas encore rendue. Et il va falloir attendre le 25 février de l'année donc 1746 pour que la ville se rende. Alors, je vous ai parlé d'une guerre dentaire. Alors là, je vais vous donner un exemple aussi assez amusant, pas très amusant pour les gens de Bruxelles, mais enfin, de ce qu'on peut appeler la guerre en dentaire. Voilà. Alors, c'est une lettre que les magistrats de Bruxelles, parce que c'est une ville qui est dirigée par toute une magistrature, vous voyez, sous les ordres des Autrichiens, bien sûr, adressent à Maurice de Saxe, c'est-à-dire à l'assiégé Jean. Eux sont assiégés, lui est assiégé. Les manières gracieuses avec lesquelles votre Altesse a reçu nos députés le 2 février, et la réponse favorable qu'elle a bien voulu faire à leur demande, à savoir que ce n'est pas l'intention de votre Altesse de ruiner le peuple et de nous faire espérer que la ville et ses citoyens ne seront bombardés ni détruits, nous font prendre la liberté d'informer votre Altesse que plusieurs bombes sont tombées assez en avant dans la ville et ont écrasé quelques bourgeois sous les ruines de leur maison, et que quelques boulets de canon ont percé jusqu'au cœur de la ville. Nous sommes dans la ferme croyance, Monseigneur, que ce ne sont que des bombes et boulets échappés, dirigés contre les fortifications de la ville, et nous espérons que votre Altesse voudra bien donner des ordres afin que les bombes et boulets soient tirés avec plus de précaution. Pas mal. Bon, il faut dire qu'en 1695, Louis XIV avait été beaucoup moins gentil. Il avait quasiment écrasé Bruxelles sous les bombes. Mais les bombes du temps de Louis XIV étaient moins destructrices que celles de Maurice de Saxe. Alors Maurice de Saxe est très poli, il me répond. Je vois par ma lettre que m'avait écrite que malgré les ordres que j'ai donnés aux officiers de l'artillerie, il est arrivé quelque accident dans votre ville. Vous ne devez pas vous flatter d'en être entièrement exempt. Quelques précautions qu'on prenne, parce qu'il y a toujours des boulets ou bombes qui passent leur direction. Et oui, vous voyez comme ils étaient polis. Bon, le 26 février, la ville se rend. Donc, Maurice de Saxe, il rentre avec tout son état-major. Il fait prisonnier donc, les Autrichiens, qui n'étaient pas très nombreux. Il y avait 2 généraux et 900 hommes seulement. En revanche, il fait prisonnier les Hollandais. Et c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'ils sont 7000 hommes ou 9000 hommes, et une dizaine aussi de généraux, et surtout des canons. Alors, ces canons s'ajoutent à ceux de la bataille de Fontenoy, qu'on avait déjà récupérés. Et qui font, bien sûr, c'est des canons hollandais qui font le plaisir de Maurice de Saxe. Et enfin, on récupère l'oriflamme de François Ier, que François Ier avait perdu à la bataille de Pavie, lorsqu'il avait été fait prisonnier par l'empereur d'Autriche, enfin l'empereur, le roi d'Espagne, l'empereur d'Autriche. Ça, c'est évidemment une belle récupération. Et puis, quand même, les bourgeois de Bruxelles vont être obligés de payer les frais du siège. Parce qu'en fait, on a nourri les soldats, on leur a donné une solde, mais il faut bien que quelqu'un paye maintenant. Les bourgeois de Bruxelles étaient extrêmement riches. C'était une ville importante, presque aussi peuplée à l'époque que Paris. Vous voyez, une très grosse ville, et on pouvait assez facilement faire payer les Bruxelles. Et puis, les soldats, les officiers de l'armée de Maurice de Saxe se loge dans les belles maisons de la ville. Et notre aide de camp, donc, Jean-Joseph de Saluguet, reçoit un billet de logement pour la maison du baron de Bayère. Alors là, vous avez une affiche sur les barons. Alors, pour les gens qui sont viennent d'arriver, je vais quand même vous donner la documentation. Vous entendez le fond, ça va. Alors, sur la fiche, on voit la famille de Beyer. C'est-à-dire que c'est la fiche 3. Deux et trois, c'est pas les... C'est les biens.
C'est la mort.
Deux, c'est la famille de Saint-Guerre. Et trois, c'est la famille, les familles bruxelloises. Vous avez les... Pour reconnaître la fiche, vous avez les armoiries. C'est la fiche. Bon. Alors, vous êtes donc, enfin, Jean-Baptiste... Joseph de Saint-Huguet se trouve donc dans la maison de Jean-Frédéric de Beyer, qui est d'une famille d'origine allemande, du côté de Mayence, qui de là s'était ensuite transporté en Lorraine, qu'on appelle la Lorraine allemande, à Cirque. Et puis, lorsque les Français avaient repris cette partie de la Lorraine, comme il était un fidèle sujet des Autrichiens, de l'empereur d'Autriche, eh bien, il était parti s'installer en Pays-Bas autrichien. Alors, ce monsieur Jean-Frédéric, donc né vers probablement 1700, épouse en 1728 Marie-Alexandrine de Frola. Alors, Frola, ça s'écrit F-R-A-U-L-A. Alors, elle est d'une famille napolitaine qui a suivi Philippe II au XVIe siècle. Lorsqu'il a commencé à avoir une organisation dans les Pays-Bas autrichiens. Donc c'est une famille de Napolitains qui est devenue belge, qui s'est installée donc à Bruxelles. Ce sont des gens qui sont dans les finances. Le père de Marie-Alexandrine, il était donc président des deux chambres, et ces chambres s'occupaient de l'argent de l'empereur d'Autriche. De son côté, Jean-Frédéric de Beyer, donc le baron de Beyer, il s'occupe aussi de finances. Ces deux personnages, au moment où arrive donc notre aide de camp, ont six filles et un garçon. Alors, les six filles sont donc Anne-Élisabeth, née en 1730, elle a donc 17 ans. Élisabeth-Suzanne, née en 1731, qui a donc 16 ans. Jeanne Beige, je ne sais pas comment se prononce ce nom-là, c'est un nom belge, née en 1733, donc 2 ans avant. Alors elle, c'est une gamine, de 14 ans. Ensuite, Marie-Jeanne, née en 1736, une gamine de 12 ans. Élisabeth Anne, née en 1737, donc encore plus jeune, 9 ans, 10 ans. Et enfin Charlotte, qui n'a qu'un an, et qui est née en 1746. À cette collection complète de filles s'ajoute un garçon dont nous ne savons pas le nom, mais dont nous savons seulement qu'il est mort en 1751, donc très jeune probablement, je ne sais pas, il était intercalé probablement entre les filles. Il va donc rester 6 filles dans la famille. Quant à Jean-Baptiste de Saint-Guerre, ça c'est l'autre feuille. Cette fois-ci, c'est la feuille sur la famille de Saint-Guerre. Voilà. Alors, Jean-Baptiste de Saint-Guerre, je vous l'ai mis au milieu. Il est le membre d'une très très nombreuse famille. Ils sont au moins 8 ou 9, ou 10, je ne sais plus. Il y a là-dedans, pour commencer, 3 garçons. Et puis une collection de filles. Alors, les trois garçons, c'est le Guillaume dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est l'aîné et de beaucoup, puisqu'il est né en 1704, et il est donc sieur de Puymarais. Puymarais, c'est un petit château qui est à Malmort, au-dessus des magasins, là, au-dessus de la zone, malheureusement pour lui, au-dessus de la zone industrielle, enfin commerciale. Ce Guillaume a épousé Marie de Saint-Huguet, qui est une cousine, et ils n'ont pas d'enfant. Il va donc, lui, s'occuper de toute la famille. C'est lui qui fait la correspondance, c'est lui qui s'occupe des finances de la famille. Il habite à Paris dans une maison qui a appartenu au cardinal Dubois, qui était l'oncle de sa femme, au Autrement dit, ils ont une maison qui a appartenu au cardinal Dubois. Ils sont d'ailleurs en partie héritiers des Dubois. Autrement dit, c'est une famille assez riche. Hein. Ensuite vient Léonard. Alors Léonard, lui, est comme d'habitude dans les familles un peu aristocratiques dans l'église. Il est abbé du palais. D'ailleurs, c'est du côté de Paris. Hein. Et il est né en 1709. Donc, vous voyez, il est un peu plus jeune. Lui, c'est un petit peu le responsable de tout ce qui est papier, procès, affaires de la famille, relations aussi avec, il habite Paris, relations avec la cour, où il a des amis évêques et des gens qu'il connaît très bien. Bref, c'est un peu le diplomate de la famille. Vient ensuite Jean-Baptiste Joseph. Alors Jean-Baptiste Joseph, il est théoriquement né en 1713. Les gens qui ont du courage rechercheront dans les registres de Brive si réellement il y a un Jean-Baptiste Joseph qui est né cette année-là. Parce qu'ils avaient la manie, à l'époque, de trafiquer leur date de naissance. On profitait de ce qu'il y avait un enfant qui était mort, par exemple, pour récupérer sa naissance et prétendre ensuite que le suivant, ou celui qui était encore après, était celui-là. Alors, pourquoi il se serait amusé à dire qu'il était né en 1713, alors que probablement il est né en 1716? Eh bien, c'est tout simplement qu'il a dû rentrer dans l'armée à 13-14 ans, au lieu d'y rentrer à 15 ans révolus, comme il le fallait. Et ça, c'était classique. Parce que dans ces familles, on voulait que les enfants entrent à l'armée, mais alors, quasiment au berceau. Hein. D'abord, on leur payait, parce qu'on avait quand même de l'argent, une charge de lieutenant, et ils étaient immédiatement envoyés comme lieutenant, hein, à 15-16 ans. Alors, je ne sais pas comment les soldats leur obéissaient. Je pense qu'il devait y avoir un grade intermédiaire qui permettait d'attendre qu'ils soient un peu plus vieux. Mais enfin, ils étaient sur les champs de bataille dès l'âge de 15 ans, hein, absolument sans problème. Donc, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, lui, on l'appelle Sieur d'Espagnac, personne ne sait pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'endroit. C'est pas la paroisse d'Espagnac en Corrèze, donc on ne sait pas quel est l'endroit qu'ils ont choisi pour se faire appeler Espagnac. À vrai dire, en 1748, il achètera la baronnie de Casillac. La baronnie de Casillac, ça lui permet d'être baron. Et il l'achète bien entendu au roi, puisque le roi a acheté la vicomté de Turenne, et que la baronnie de Casillac faisait partie de la vicomté de Turenne. Pour vous donner une idée de leur richesse, ils payent ça quand même 72 000 livres. Ça veut dire que la famille avait de quoi maintenant payer cash au roi cette baronnie de Casillac. Donc il est né en 1713 ou en 1716. Je vous dis ça parce que si vous prenez la famille de Bayer, il y a la famille de Bayer, eh bien Alexandrine, elle est née en 1711. Autrement dit, lorsqu'il arrive dans cette maison, eh bien, il y a un baron qui est probablement assez âgé, qui a 20 ans, certainement au moins plus que sa femme. Sa femme, donc, Alexandrine, qui a pratiquement l'âge de notre aide de camp, et puis des petites jeunes filles. Bon, je ne fais aucune allusion à des possibilités de relation entre Jean-Baptiste Joseph et puis la dame Frola. Le mari est là. Les barons belges sont probablement pas bonne humeur à se laisser tromper, je pense pas qu'il y ait eu un problème. Mais enfin, c'est pour vous dire que il va y avoir un peu le même écart ensuite pour lui lorsqu'il se mariera avec sa propre femme. Parce que, donc, la guerre se terminant en 1748, il va revenir à Bruxelles. Et il va demander la main de la cadette des filles de la baronne. Donc la cadette qui a donc maintenant 17 ans, 18 ans. Et lui, bien sûr, il commence à arriver à la trentaine. Bien. Et il l'épouse donc le 18 décembre 1748. La paix est signée. Les Autrichiens maintenant ne sont pas nos alliés, mais en train de sont plus nos ennemis. Jean-Baptiste Joseph a laissé un bon souvenir à Bruxelles parce que dans la période où il a fallu payer donc les frais du siège et puis aussi maintenir la ville, Eh bien, Maurice de Saxe l'en avait chargé, et donc il a laissé un bon souvenir, car les gens de Bruxelles lui ont offert des magnifiques tapisseries. Tapisseries de Flandre, bien sûr. Et donc, il reste, bien sûr, aide-de-camp de Maurice de Saxe. Malheureusement, en 1750, donc 2 ans après la paix, un premier événement grave va troubler sa carrière, c'est la mort de Maurice de Saxe. Maurice de Saxe n'avait que 58 ans. Il avait reçu le château de Chambord en récompense de sa victoire de Fontenoy et aussi de la guerre qu'on venait de gagner, sans d'ailleurs avoir récupéré aucun territoire. Il avait reçu aussi une pension annuelle de 300 000 écus, énorme, c'est 900 000 livres, c'est quelque chose d'énorme. Bon, et il menait joyeuse vie à Chambord jusqu'au jour où il est mort, évidemment. Mais c'est très grave pour Jean-Baptiste Joseph, parce qu'à cette époque, quand dans l'armée vous êtes les deux camps et un peu le confident d'un maréchal, les autres vous détestent, les autres vous envient, et puis lorsque votre protecteur meurt, eh ben, vous vous retrouvez un petit peu délaissé. Et sa carrière va donc marquer le pas. Alors que la logique aurait voulu qu'il ait été nommé maréchal assez rapidement, au cours de la guerre dont nous allons parler maintenant, eh bien, il est envoyé comme gouverneur à Bourg-en-Bresse, où il restera pendant plus de 10 ans. Ce n'est pas un avancement, en général. Alors, est-ce qu'il était conscient de ça? C'est difficile à dire, parce qu'il a commencé à écrire des livres dès la fin de la guerre, dès 1748, pour décrire la campagne qu'on venait de faire et l'ensemble de la guerre. Ensuite, il a écrit d'autres livres sur l'art de la guerre, etc. Il est auteur d'une dizaine de livres militaires et à la fin de sa vie, il publie en 1775 une vie de Maurice de Saxe qu'il a certainement très longuement médité, préparé. Et ses livres sont des véritables volumes. Malheureusement, on n'en garde que la vie de Maurice de Saxe, c'est le seul livre qui soit resté. Mais enfin, le voilà donc un petit peu sur la touche, comme on dit. Deuxième mauvais présage, une mauvaise chose pour la famille de Bruxelles, le baron de Beyère meurt donc en 1750. Le fils, qui aurait été l'espoir de la famille, meurt en 1751. Et la baronne se retrouve donc avec 5 filles. Il y en a une qui est mariée, qu'elle a casée. Mais les autres, eh ben, maintenant, il va falloir les caser. Et elle a aussi, comme d'habitude, des problèmes de succession. La succession dont elle, de son mari, est à peu près de 2 millions, ce qui est énorme. Mais il va falloir diviser ça entre les 6 cousins. Et donc, on a à cette époque une lettre en 1750 de l'abbé Léonard qui est en train de se demander si son frère a fait un bon choix. Voilà ce qu'il écrit le 14 juin 1750 à son frère. Alors c'est Léonard, c'est-à-dire le second de la famille, l'abbé, qui écrit à l'aîné, celui qui s'occupe de tout le monde, Guillaume. 14 juin 1750. Je ne suis pas content de la position de mon frère dans la famille de son épouse. Son mariage ne sera pas ce qu'il avait cru et ce qu'il nous avait dit. Ses enfants auront grand besoin du secours de monsieur et madame de Puymarais. Monsieur et madame de Puymarais, ce sont mes grands-parents, ils vivent encore. Vous voyez qu'il est assez pessimiste. Le 28 juin, il ajoute, j'ai fini le mémoire sur la grande affaire de la famille de Beyère. Autrement dit, il s'est occupé du procès de succession de la famille de Beyère. On a fait un procès d'une très bonne affaire et qui est clair comme le jour. Elle doit produire au moins 2 millions divisibles en 7 parties. Évidemment, divisibles en 7 parties, parce qu'à cette époque-là, le fils est encore libre. Donc finalement, les choses s'arrangent et la parole va apprécier énormément les Limousins. La preuve, eh bien, vous l'avez dans la série des mariages de cette famille. Alors, je reviens au mariage. Donc, Elisabeth Suzanne a épousé en 1748 Jean-Baptiste de Salbe, 1748. Sa sœur aînée, pour l'instant, n'est pas mariée. La sœur aînée, d'après la tradition familiale, était un peu revêche. Elle va donc peut-être avoir un peu plus de mal. Elle épouse donc, alors nous sommes en 1753. Elle épouse en 1753, elle a donc 23 ans, à l'époque c'est bon, attention, pour une jeune fille qui a une dot de 40 000 livres, elle aurait dû être mariée depuis longtemps. Et elle épouse un limousin, Jean-Joseph, il s'appelle tous Jean-Joseph à l'époque. Ça, je ne sais pas, c'était la mode. On croit que Saint-Joseph avait une vénération spéciale à Saint-Joseph. Jean-Joseph Féline de la Renaudie, baron du Sac et de Vergy, on en dit un baron nord de Brive, seigneur de la Combe et de la Renaudie, tout ça, ça se passe à Lussac. Et ce Jean-Joseph Féline de la Renaudie épouse donc Anne-Élisabeth. Sa mère dira plus tard, elle a été séduite par la figure et par le rang. Mais enfin, disons, au bout de quelques années, elle se sépare de son mari et elle vient habiter Paris. On en dit, ça ne se passe pas très bien. Ils n'auront d'ailleurs pas d'enfant. Je passe à la troisième. Alors la troisième, c'est Jeanne de Belge, née en 1733. Elle va épouser à 19 ans, 1754, un limousin, Guillaume Dufort de Sauvésie, qui habite Voutezac. Enfin, quand je vous dis Voutezac et Lussac, en fait, ils ont tous une maison à Brive. Hein. Et bon, ils habitent essentiellement à Brive. Alors lui, il est d'une famille de juristes, c'est pas spécialement un militaire. Et lui, il va avoir avec Jeanne Bec beaucoup d'enfants. Vient ensuite Marie-Jeanne, née en 1736. Elle épouse en 1754. Elle a la même année que sa sœur. C'est un lot, voyez, de deux. François de Saluguet, qui est un cousin des autres Saluguet. C'est pas un frère, c'est un cousin, un petit cousin, qui lui est militaire, il est mousquetaire. François de Saluguet, sieur de la Roche. Toutes ces demoiselles ont donc 20 000 livres de dot chacune, sauf l'aînée, qui a 40 000 livres. Sans compter aussi, ensuite, des avantages, comme on disait à l'époque, des espérances, lorsque les gens de la famille, les grands-tantes, les tantes et les nièces, et puis les grands-parents, mourraient les uns après les autres, parce que ça comptait pas. La dot, c'était tout de suite, en principe. J'ai donc casé toutes les filles. Non, il me reste. Eh bien, il me reste Élisabeth Anne. Élisabeth Anne était née en 1737. Elle a donc un an moins que sa sœur. Et il se trouve qu'en 1757, quand on lui propose d'épouser Monsieur de Chaumarex, eh bien, elle ne veut pas. Elle dit qu'elle n'a pas envie d'aller habiter en Limousin. Peut-être qu'elle a reçu des lettres de ses sœurs qui lui disaient que c'est bien le Limousin, mais le Bruxelles, c'est bien aussi. Et finalement, elle va aller épouser un baron autrichien, le baron de Sachsenauer, qui habitait à Vienne, en Autriche. Autrement dit, elle a choisi plutôt l'Autriche. Et nous ne connaissons pas le sort de la dernière, Charlotte, née en 1746, sauf dans les lettres de sa mère, où on apprend qu'elle est pensionnaire à l'abbaye de Montmartre, à Paris, abbaye dirigée par une limousine qui s'appelle Catherine de la Rochefoucauld-Cousage, et qui appartient à cette famille de Cousage de Saint-Sernin-de-l'Arche. Et la Rochefoucauld-Cousage, donc, avait une abbesse qui était la première dame de Paris, en principe. Parce que l'abbaye de Montmartre, c'était la plus vieille abbaye, bien sûr, de Paris, la plus noble. Et lorsqu'on y mettait des filles, ça voulait dire qu'elles appartenaient à la noblesse, en général. Donc Charlotte, ma foi, eh bien, on lui a fait une assez belle position. Vous verrez que sa mère ne trouve pas que c'est tellement yes. Et nous arrivons aux lettres. Alors, avec toute cette famille, il est évident que la baronne de Meyer, restée donc à Bruxelles, va entretenir une grande correspondance. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons les lettres qu'elle écrit à Guillaume, le, l'aîné, dans lequel elle parle de choses diverses et qui sont intéressantes pour l'histoire donc, de ma région. Je commence en 1755, je vous donne un exemple. Ma fille de la Renaudie, alors chacune de ses filles, elle les appelle du nom de la seigneurie du mardi. Il y aura ma fille d'Espagnac pour le, la cadette, ma fille de la Renaudie pour l'aîné, ma fille de la Roche pour la fille Salguet, ainsi de suite. Et puis Sauvésie, ma fille Sauvésie, de Sauvésie. Ma fille de la Renaudie me marque qu'elle s'est retirée de la maison de sa belle-mère. Peut-être qu'étant séparées, elles vivront mieux ensemble. Vous voyez ce que je veux dire. Car leur caractère ne sympathisait point. Vous voyez que le mot sympathiser existait déjà. Je prévois la peine que ces jeunes gens auront à se tirer d'affaire, mais les dépenses que j'ai faites pour elles à Paris et l'établissement de deux autres filles m'ont fort dérangé. Elle recevra le mois prochain 1600 livres du revenu de sa dot. Si la Renaudie a autant d'économies que sa mère, il se tirera d'affaire. On ne va pas pleurer sur les malheurs quand même de ces familles qui avaient évidemment des domaines. Les seigneurs de Baron, les barons du sac, ils avaient les rentes de tous les paysans du sac. Ça pouvait aller quand même. Mais ils avaient de grandes dépenses. Vous verrez que je vous donnerai des exemples de dépenses à l'abbaye de Montmartre. Eh bien, c'est assez élevé. Donc, elle laisse tomber ce sujet et elle passe alors à un sujet qui intéresse plus Guillaume de Puma. Comme en Belgique, il y avait des dentelières et que c'était vraiment des dentelières très, très renommées. Comme d'autre part, on fabriquait aussi des étoffes très belles et que, puisqu'ils étaient alliés avec les Anglais, ils pouvaient faire passer assez facilement des produits d'Angleterre en Flandre. Eh bien, les Français étaient très intéressés par tout ce qui venait de la Belgique, de la Flandre. Alors, je suis enchantée que la robe de Mademoiselle d'Argent ait réussi. Je me charge d'en faire broder une pour Madame la Duchesse d'Estissac, mais elle coûtera davantage. 2 à 3 louis de plus. Un louis, c'est 5 livres. J'aurais difficulté à m'acquitter de cette commission s'il y avait guerre. En effet, nous sommes en 1755. Et il y a des bruits de guerre qui s'annoncent. Ça sera la désastreuse guerre de 7 ans qui nous a fait perdre toutes nos colonies, sauf la Martinique et la Guadeloupe. Donc il y a effectivement des bruits de guerre. J'aurais difficulté donc à m'acquitter de cette commission s'il y avait guerre et que l'on changeât de domination. Alors là, il y a le problème qui justement va se poser. En principe, cette guerre de 7 ans, qui commence en 1756, eh bien, elle voit un renversement des alliances. La France s'allie avec l'Autriche, et nous serons vraiment, nous ferons cette guerre pour elle, pour Marie-Thérèse d'Autriche. Et la Prusse, qui était notre alliée donc, à la guerre précédente, s'allie avec l'Angleterre. Et donc, on se dit, nous, au départ, que la Prusse, elle est complètement fichue. Parce que les Anglais, évidemment, nous battent sur mer, mais ils sont incapables, théoriquement, de nous battre sur terre. Quant à la Prusse, eh bien, vous n'avez qu'à regarder la carte que je vous ai mis la première page. Elle est comme ça, elle va être attaquée. C'est bizarre, elle va être septembre. Ça, c'est une vision de la guerre de 7 ans. Elle va être attaquée de tous les côtés à la fois. Marie-Thérèse d'Autriche, elle est alliée avec la Pologne, avec le roi de Pologne, donc les armées polonaises vont débarquer vers la Prusse, vers Berlin. Mais elle-même, elle attaque la Prusse par la Saxe et par la Silésie. Et puis nous, la France, eh bien, nous traversons la Belgique, qui est maintenant notre allié, pour aller attaquer le Hanovre, vous voyez, qui est allié avec la Prusse. Autrement dit, on ne donnait pas cher de la peau de Frédéric de Prusse, le roi de Prusse, donc, qui s'était mis autant de gens sur le dos. Il va tenir le coup 7 ans, il va gagner la guerre, alors qu'il était en infériorité numérique et qu'il était, comme vous le voyez, attaqué de tous les côtés. Et ça va être le début de la grande armée prussienne, le début aussi de la prédominance de la Prusse en Allemagne, le début de ce qui sera plus tard l'Empire d'Allemagne, parce que c'est la Prusse qui l'a fait, cet empire. Et il l'a fait grâce à Frédéric de Prusse, donc, au moment de cette guerre de 7 ans. Et pendant ce temps-là, nous, eh bien, on est là, soi-disant, pour aider Marie-Thérèse d'Autriche, toujours avec l'intention de n'avoir aucune conquête. Donc, à la première guerre, on avait travaillé pour le roi de Prusse. À la deuxième guerre, eh bien, on travaille pour l'impératrice d'Autriche. Et du coup, les Anglais sur mer, ils ont une supériorité écrasante et ils vont nous repiquer le Canada, une partie de ce qu'on avait eu aux Indes et toute la Louisiane, énormément de territoire qu'on a eu. Ça, c'était les guerres de Louis XV. Alors, elles étaient étranglantelles, elles étaient surtout inutiles. Parce que Marie-Thérèse et l'Autriche n'avaient qu'à se débrouiller toute seule. Hein. Évidemment, on avait des rois. France avait des liens de famille avec toutes ces familles, et voilà pourquoi on voulait les aider. Voici pour cet exemple. Donc, elle est en train de s'occuper de la robe de Madame d'Estissac. Seulement, elle ne sait pas trop si elle va pouvoir se débrouiller, parce que si jamais la Flandre est envahie par la Prusse, par les armées prussiennes, elle ne pourra plus lui faire grand-chose. Un exemple, donc, je vous donne pour 1755. Vous n'êtes pas trop fatigué?
Non.
Prenons un exemple donc en 1756. Alors, après avoir fait faire un lit, faire une robe donc, pour Madame d'Estissac, elle s'est chargée d'un lit. Alors ça c'est plus compliqué de broder un lit, ça veut dire la couverture du lit. Les courtes pointes, tout le système, vous voyez, de décoration. Elle s'est chargée de le faire décorer, mais cette fois-ci pas en Flandre, en Autriche. Alors c'est plus compliqué, elle est obligée de s'adresser à Vienne. Le lit de M. de La Rochefoucauld partira le mois prochain, avec les équipages du prince Charles. On travaille à la robe de Madame d'Estissac. Il faudra mêler un peu de gris avec le noir pour faire une espèce de nuance. Autrement dit, la robe de Madame d'Estissac, c'est probablement une robe en satin, quelque chose comme ça, noire. Mais alors, les broderies qui sont dessus, si c'est noir sur noir, ça ne va pas se voir. Donc, il va falloir mêler un peu de gris. Voilà ce qu'elle explique. Pour faire une espèce de nuance. En noir, l'ouvrage sera fort embrouillé par la petitesse des dessins. Voilà donc pour cette robe. Alors, ça se passait le 22 juin 1756, le 14 novembre. J'ai donné l'ordre de broder à Vienne, ne me figurant point que le prix parut exorbitant. Je suis inquiète pour la robe de Madame d'Estissac. Alors, elle a donné le prix de la robe de Madame d'Estissac. Madame d'Estissac a l'air de faire une drôle de tête et n'a pas l'air de dire que c'est trop cher. Le lit de M. de La Rochefoucauld, qui est d'ailleurs le cousin de Madame d'Estissac, il est encore moins d'accord, il ne veut pas payer la somme aussi épais. Elle commence donc à se dire que les Français sont un petit peu pénibles, surtout qu'elle a fait déjà les commandes. Et nous arrivons à ce qui intéresse beaucoup alors la famille de Pimard, d'Espagnac. D'Espagnac, c'est son gendre. D'Espagnac a donné commission à mon valet de lui choisir en Hollande des oignons de fleurs, les plus rares, et de vous les adresser. J'ai reçu une lettre de remerciement de l'abbesse, alors l'abbesse de Montmartre, ce qui me fait juger qu'il y a eu un petit propos, parce qu'elle a dû se tromper d'adresse, enfin Guillaume d'Espagnac a dû se tromper d'adresse, et au lieu de les envoyer directement à Guillaume de Pumaret, les envoyer à l'abbesse. Et donc l'abbesse remercie. Vous voyez que c'est déjà une des choses qui intéresse les Français. Les Hollandais étaient renommés, évidemment pour les tulipes, mais pas seulement pour les tulipes, pour toutes sortes de fleurs. Et ils étaient un peu comme les Chinois avec les cocons de verre à soie, c'est-à-dire qu'ils interdisaient de vendre des oignons de leurs fleurs. Donc c'est déjà une espèce de contrebande. Ils ne donnaient pas l'autorisation de vendre des oignons, ils voulaient qu'on leur achète leurs fleurs, quoi. Simplement. 29 octobre. Il n'est plus temps de contremander le lit du duc. Ah, ouais. Je suis persuadée que lorsque l'ouvrage paraîtra, il ne sera pas jugé trop cher. cette leçon doit vous corriger de prêter service. Elle se met à parler de la guerre. Frédéric de Prusse venait de battre les Saxons. Les Saxons ont bien mal secondé la volonté où l'on était de les délivrer et se sont rendus prisonniers par leur faute. C'est un royaume perdu étant à la discrétion du roi de Prusse. On assure ici que ces mauvais procédés engagent le roi à nous secourir de toutes ses forces. Toutes les troupes que nous avons au pays partent dans 2 jours pour joindre l'armée. Le corps du général Piccolomini aurait défait un corps prussien, mais les nouvelles se contredisent si souvent qu'elles méritent confirmation. Alors là, elle a parfaitement raison, parce que Frédéric de Prusse n'a pas été battu donc par ce général Piccolomini. Mais enfin, voilà pour cette affaire. Elle est donc en train de faire le lit. Elle espère que tout de même on va lui acheter ce lit, parce qu'elle l'a payé elle d'avance, et elle voudrait évidemment que le Richelieu, le duc de la Rochefoucauld, paye ce qu'elle a fait. Ensuite, nous passons donc en 1757. Alors, le lit du duc est achevé. Nous sommes le 26 janvier. Le lit du duc est achevé. C'est à lui d'écrire à M. Destrée pour qu'il ne lui fasse passer. Ah, c'est plus compliqué. Destrée, c'est un des généraux de l'armée française qui se trouve en train d'aider Marie-Thérèse contre la Prusse. Il va donc faire passer, ce lit par l'armée, et qui évidemment est en guerre entre la zone, entre l'Autriche et puis la Flandre. Il va faire passer ce lit sur la Flandre. De la Flandre, de faire passer à Paris. Et de Paris, évidemment, le faire passer dans le château de la Roche-Guyon, qui est près de Paris, un superbe château où le duc de la Rochefoucauld est en exil, parce qu'il a tenu des propos contre le gouvernement. Donc, vous voyez que ça se complique. Alors, le 8 mai, elle commence à se demander ce que devient son gendre. Elle commence à se demander surtout pourquoi il n'est pas envoyé dans l'armée, il n'est pas en guerre, et qui se trouve à Bourg-en-Bresse. Espagnac est fort content de son voyage. Le voyage qu'il avait fait, c'était un voyage secret et diplomatique qu'il était allé faire en Corse, sur lequel on n'a pas de renseignements, parce que, de toute façon, le roi et le ministre des Affaires étrangères avaient déclaré qu'il ne fallait pas parler de cette affaire. La Corse n'était pas française, hein, à cette époque. C'est parce qu'il était allé faire là-bas. Il compte faire la campagne prochaine. Enfin, du moins, c'est ce qu'il dit à sa belle-mère, parce qu'en réalité, il n'a pas fait la campagne prochaine. « Je suis contente qu'il ne soit pas exposé au feu le plus vif. » Alors, vous voyez, il faudrait qu'elle sache ce qu'elle veut. D'une part, elle voudrait qu'il soit en guerre pour monter en grade, mais d'autre part, elle préfère qu'il ne soit pas en première ligne. Alors, c'est un peu compliqué. « Nous sommes dans l'attente d'apprendre le succès d'une bataille pour éviter que le roi de Prusse ne perce plus avant dans la Bohême. » Dieu veuille qu'elle tourne à notre avantage. Eh oui, mais Dieu n'a pas voulu, et donc Frédéric a gagné la bataille. Ensuite, le 27 juillet, on revient à des préoccupations plus familiales. Espagnac me demande 2 livres de thé. Je souhaiterais savoir si vous en faites usage, et s'il est meilleur en ce pays qu'à Paris. Je prendrai la liberté de vous en envoyer, ainsi que du chocolat. Alors ça, c'est très intéressant pour les Français, parce que, précisément, à cette date, les Anglais nous bloquent quasiment nos côtes, nous empêchent de faire venir du thé de nos colonies. En plus, le chocolat venant d'Amérique, c'était encore plus impossible. Et donc, ce chocolat et ce thé qui passent par l'Angleterre, ça serait très intéressant. Je vous rappelle que c'est toujours de la contrebande. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ait envie de payer des droits de douane exorbitants au passage entre la Belgique et la France. Autrement dit, elle fait ses petits trafics avec la famille de Saluguet dans des carrosses privées, les carrosses de ses amis, son propre carrosse, et pas du tout avec les transports locaux, enfin officiels, les transports qui étaient arrêtés à la douane. Alors, le thé, le chocolat, la Hollande, là, les graines de. Les graines, les oignons de tulipes. Où est-ce qu'on va encore lui demander? Qu'est-ce qu'on va encore lui demander? Nous sommes toujours donc en 1757, et en 1757, le 30 octobre, voici ce qu'elle dit. Quant à la graine de trèfle, qu'on devait me remettre, je n'en ai rien encore. Cela ne peut arriver que par le bateau marchand de Hollande, n'y ayant point d'autres voitures publiques. Donc elle est en train d'attendre le trèfle, et ce trèfle lui a été demandé par Guillaume de Puymaret. Il est en train de faire des essais de diverses plantes dans toute la plaine au pied de Puymaret qui lui appartenait, et donc il est en train d'essayer du trèfle. Ce trèfle, le meilleur, c'était bien connu, venait de Hollande. Et c'est une plante donc fourragère. C'est une plante qui permet donc de nourrir le bétail. On prétendait qu'un hectare de trèfle permettait de nourrir 3 vaches, alors qu'à l'époque, en Limousin, un hectare, c'était une vache, pratiquement. C'est-à-dire qu'on les mettait dans les prés, mais il n'y avait pas de plantes fourragères. On est en train de commencer à découvrir les plantes fourragères, et donc ces trèfles de Hollande, c'est une nouveauté. Là encore, en contrebande. Il n'est pas question que ce trèfle de Hollande arrive en France autrement que sans payer de droits de douane. Voyez, voilà ce que veulent les Puymarets. Mais enfin, en attendant, il faut d'abord que ça arrive par le bateau. Et on n'y est pas encore. Nous arrivons donc en 1758. Nous sommes au mois d'avril. Je ne fais que de recevoir, monsieur, les semences que vous attendiez de Hollande, que je remets à la diligence de Paris, qui part demain et que vous recevrez le 19. Je souhaite que la saison ne soit pas trop avancée pour en faire usage. Voilà donc ce qu'on lui a demandé il y a 6 mois, et qu'elle a réussi à avoir, et qu'elle envoie donc à Guillaume de Puymaret. Alors Guillaume de Puymaret lui-même va l'envoyer à sa sœur, Catherine de Puymaret, qui est une célibataire. Elle est la providence de la famille, parce que ces hommes-là, qui sont ses frères ou ses beaux-frères, qui sont des militaires, envoient leurs enfants à Brive. Souvent, d'abord, ils envoient leurs femmes accoucher à Brive, et puis ensuite, ils envoient les enfants. Et ils sont donc élevés, soit au château de Puymaret, soit à la Vinche, à l'hôtel de la Vinche, qui appartenait aussi à la famille de Puymaret. Donc, c'est cette Catherine, célibataire, qui s'occupe de ses enfants. Elle a élevé aussi en partie Latreille, l'entomologiste Latreille, qui était le fils naturel du parent de Saluguet, le général d'Espagnac. Il était son fils naturel, mais pas légitime. Entre deux campagnes, voilà. Il avait déjà 8 enfants, 6 enfants lui-même, 7. Bon, un de plus, un de moins. Et en tout cas, la famille l'avait bien accueilli. Il n'y avait pas eu de problème. Alors, j'arrive à l'abbesse. L'abbesse. Alors là, la fille est en pension à Paris. L'abbesse me vante toujours le bon caractère de ma fille et me prévient qu'elle profite. Ce qui m'a déterminé à la faire revenir pendant l'été. Je prends donc la liberté de vous demander de la récupérer. Il y a fort longtemps que je n'ai pas eu des nouvelles d'Espagnac. Je ne m'attendais pas à le voir oublié dans la promotion qui s'est faite. Je ne suis pas fâché qu'il ne soit pas employé à l'armée, vu la mauvaise influence qui y règne. En effet, en 1758, le maréchal de Broglie, qui est le chef de l'armée, se dispute avec ses sous-fifres, et en particulier le maréchal de Contade. Ils se disputent tellement qu'au moment des batailles, ils ne sont pas d'accord sur les mouvements à faire et nous perdons les batailles. Voilà ce que nous faisons. Donc, mauvaise influence. Bien sûr, au temps de Maurice de Saxe, ça ne se passait pas comme ça. Au mois de septembre, je me charge de l'emplette de 18 aunes de France. Les aunes, c'est les mesures. Les aunes de France. Évidemment, les mesures belges n'étaient pas les mêmes. Je me charge de l'emplette de 18 aunes de France. De Flamel d'Angleterre, pour l'abbé. En effet, l'abbé était un petit peu frileux, il aimait les étoffes de Flamel, qui sont chaudes, bien entendu, une fois de plus, ça vient d'Angleterre. Il y avait dans à Salisbury une usine, parce qu'à l'époque, les Anglais étaient déjà dans le système des véritables usines, une usine de fabrication de flanelles. Et donc, ces flanelles arrivaient en Belgique sans trop de problèmes. Mais une fois de plus, elles n'arrivaient pas en France. Il ne faut pas oublier qu'on était en guerre, mais alors en guerre vraiment avec l'Angleterre. Cette marchandise est de contrebande en France. Vous voyez, pour la première fois, elle admet qu'elle commence à avoir des problèmes. C'est un petit peu pour dire, vous commencez à faire courir des risques. Cette marchandise est de contrebande en France. Ainsi, donnez-moi une voie pour la faire parvenir. Car je prévois que monsieur de Lancire, donc ça c'est un ami qui habitait Bruxelles, je prévois que monsieur de Lancire ne sera pas de sitôt en état d'être transporté à Paris. Ils avaient pensé que dans le carrosse de monsieur de Lancire, on pouvait planquer sous les coussins, vous voyez, un certain nombre de donnes de flanelle. Mais il n'est pas en état de galer. Alors elle nous donne un tableau de monsieur de Lancire qui n'est pas très bien. Sa maladie gît dans la poitrine, qui est toujours fort embarrassée. Il prend le lait d'ânesse. Qui passe bien. Ah bah, tant mieux. Les médecins n'ont pas perdu tout espoir que l'on parvienne à lui tranquilliser l'esprit, ce qui n'est point aisé. Vous voyez qu'on était à une époque où on commençait à se dire que les maladies avaient des causes psychologiques et que si on arrivait à le tranquilliser, ça irait beaucoup mieux. Effectivement, quelques mois après, il est dans son carrosse, ça a l'air d'aller mieux, le lait d'ânesse a fait son effet. Vous savez que le lait d'ânesse, bon, du temps de Cléopâtre, ça servait pour se baigner. Maintenant, ça sert pour se mettre de la crème sur la figure. Mais à cette époque, c'était un remède. On le donnait à tous les gens qui étaient faibles de la poitrine. Le lait d'ânesse, ça fait de mal à personne. C'est un lait très, très peu crémeux, très léger, et bon, parfait. Affreusement cher, d'ailleurs. Alors, beaucoup moins cher à cette époque, parce qu'il y avait beaucoup d'ânesse. Mais maintenant, c'est devenu quasiment un prix d'or, hein, le lait d'ânesse. Qui a des ânesses? En plus, il faut que l'ânesse, elle est un petit. Chaque année. Eh oui, alors ça complique quand même les choses. Elle passe au mois de novembre. Donc, Madame de Lancire, finalement, a réussi à rendre son mari en meilleure santé. Ils sont à Paris. Et elle dit, j'ignorais l'arrivée de Madame de Lancire à Paris. Je suis fort aise que vous ayez reçu la flanelle. C'est un peu un reproche, c'est là de dire, vous ne m'avez pas prévenu. Ça fait un moment probablement que la flanelle est terminée, vous auriez pu m'écrire. Je joins des échantillons de serviettes et le prix de chaque sorte. Alors ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle commande, il s'agit de serviettes. Et ces serviettes, du coup, elles viennent de Flandre, tout simplement. Ce sont des serviettes. Alors là, elle commence à avoir des doutes. Madame de Querelle m'a dit qu'elles étaient tout aussi bon marché qu'à Paris. Oui, ça commence à vouloir dire, ça va comme ça. Dans le fond, est-ce que vous avez besoin que ce soit des serviettes venues de Flandre? En ce cas, vous épargnerez le pied, le port. Vous voyez comme elle est quand même diplomate. Elle n'ose pas dire, elle est trop polie, c'est une dame du XVIIIe siècle. Elle est trop polie, elle n'ose pas dire « je commence à en avoir assez, toutes ces commandes ». Elle préfère dire « vous voyez, ça vous coûtera moins cher si vous les achetez à Paris, vos serviettes ». Tout simplement. Alors, elle repart de sa fille de Montmartre. J'ai revu Charlotte avec plaisir. En effet, elle l'avait ramenée chez elle pour l'été. On la trouve gentille. Je ne suis pas trop contente de l'avoir si peu avancée. En effet, chaque fois que... faisait allusion à Charlotte et nous disait « Charlotte ne m'écrit pas. Elle a quand même 8 ans devant, cette fille. Et semble-t-il, on n'a pas encore réussi à l'apprendre à écrire. » On dit, c'est un peu... Est-ce que l'abbesse s'occupait de ça? C'est pas certain. Vous verrez que dans les dépenses que l'abbesse fait pour Charlotte, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de plume, il n'y a pas de livre. Comme on dit, je pense qu'on lui apprend plutôt à chanter des psaumes, des cantiques. Exactement. Ouais, quand même, c'est une catholique qui chantait des cantiques. Et puis, voilà, hein, peut-être lire quelque chose, mais pas écrire. Alors, elle n'a acquis dans son couvent que de la vanité et beaucoup d'amour-propre, dont elle se corrigera avec le temps, j'espère. On sent qu'elle n'est pas du tout religieuse, Madame de Beyer. Il n'y a aucune allusion, jamais, sauf Dieu pour les batailles, quoi. Dire, Dieu nous fera gagner la bataille. Mais à part ça, il n'y a aucune allusion à la religion. Elle appartient à ces milieux encyclopédistes, justement, très cultivés, et qui commencent à trouver que la Belgique, qui était très, très dévote, hein, et très, très pieuse, très religieuse, avec beaucoup d'ordres religieux, ce n'était pas ce qu'il fallait. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'elle envoie sa fille à Paris, vous voyez. Elle n'a pas mis dans un couvent de Belgique, il y en avait autant qu'elle voulait. À Bruxelles, il y avait tous les couvents qu'on voulait. Mais elle est un peu déçue. Elle se rend compte qu'on n'a pas vraiment appris ce qu'on sait à Paris. Elle n'a pas donné le bel air de Paris. Tout ce qu'elle sait, c'est une vaniteuse. C'est normal, parce qu'elle n'était qu'avec des filles de la haute noblesse. Des filles de princes, vous voyez, des gens vraiment très élevés. Alors, ensuite, elle va donc reparler d'une victoire. Notre victoire nous a coûté bien du monde. On s'attend à une seconde bataille. Donc, tout ça, c'est pas très, très encourageant. Dieu veuille qu'elle ait le même succès. Depuis cette guerre, le maréchal Don, ça ne peut pas qui c'est, est le seul qui ait pu vaincre le roi de Prusse. Mais cette tête-là a tant de ressources, le roi de Prusse, qu'on ne peut compter sur rien tant qu'il lui restera des troupes. On assure, malgré la perte considérable qu'il a faite, qu'il a rejoint le prince Henri et que son armée est de rechef très respectable. Les moindres de ses soldats sont des héros. On ne vit jamais de bataille aussi sanglante et qui paraissent ne tendre qu'à la destruction du genre humain. Elle était quand même assez désespérée. Alors, je crois que j'ai presque fini. J'arrive à 1760, la dernière année où nous avons célèbre, bien sûr que je ne vous ai fait donner que des extraits. Le 2 février, donc en 1760, j'ai fait partir hier par le carrosse un sac avec 50 livres de graines de trèfle qu'on m'a assuré être de la meilleure qualité et préférable à celle de la Hollande. J'ai payé pour le tout 24 livres et 14 sous de France. Il y a aussi une boîte de thé pour ma fille de Sauvésie que je vous prie de faire passer en Limousin. J'ai reçu la dinde de ma fille Maroc. J'attends des perdrix et des trucs de mademoiselle depuis Marin. Ça, c'est des cadeaux classiques des Limousins. Au mois de février, mais c'est déjà un peu tard, vous voyez. Au mois de février, ils nous ont envoyé donc des dindes truffées. Et on peut imaginer l'état dans lequel vivait la dinde lorsqu'elle arrivait à Bruxelles. Parce que déjà, arrivant à Paris, depuis Limoges, il fallait facilement 8-10 jours. Il faut ajouter quand même 5-6 jours. Bon, ils avaient des estomacs solides. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Évidemment, ils devaient les faire cuire et recuire. Et puis on nous dit que le gibier, par exemple, ça peut être mangé quasiment pourri. Mais la dinde, je ne sais pas. Hein. Enfin bref, j'avais l'estomac. Elle a reçu ses dindes, elle est contente. Le 18 février, on m'écrit du Limousin que ma fille aînée est enceinte. Ma fille aînée, elle a 28 ans. Je le souhaite pour la satisfaction de sa famille. Du reste, je la crois assez indifférente à cet égard. D'ailleurs, effectivement, il n'a pas eu d'enfant de sa fille aînée. Paris doit avoir beaucoup d'attrait pour l'avoir empêché de profiter des offres d'essayer l'air natal. Alors là, elle est un peu vexée, parce que sa fille donc fait des échappées à Paris assez souvent, mais ne vient jamais la voir à Bruxelles. C'est le coup classique de la fille aînée, très détachée de sa mère, voilà, et à laquelle sa mère pense sans arrêt. Dans presque toutes les lettres, il est question de ma fille de la Renaudie. Les autres, on en parle à propos de la dame, mais c'est à peu près tout. Et puis on parle quand même de la cadette, puisqu'elle a des enfants. Alors, ma fille d'Espagnac, cadette, ma fille d'Espagnac y a plus de confiance. Je l'attends dès qu'elle sera relevée de couche. Je suis bien impatiente qu'elle soit établie à Paris. Et en effet, alors nous sommes en 1760, la guerre se termine seulement en 1763, c'est la guerre de 7 ans. Pareil, nous avons perdu cette guerre. Le général d'Espagnac va donc avoir son bâton de général et il va être nommé aux Invalides, où il sera lieutenant du gouverneur des Invalides et puis ensuite gouverneur des Invalides jusqu'à sa mort en 1783. Autrement dit, la baronne, elle est contente parce que sa fille d'Espagnac va devenir parisienne. Il est évident que c'était une belle promotion pour le général d'Espagnac. Voilà pour ces lettres. Vous voyez, j'espère que quand nous avons publié dans le bulletin, vous pourrez les lire un petit peu plus à loisir. Vous voyez que c'est une époque qui a été vraiment, pour le Limousin et pour Paris aussi, une époque de grand progrès. Les gens voulaient changer, les gens voulaient avoir une agriculture plus riche, et la famille de Puymarais a été en pointe dans ce domaine. Lorsque vous ferez une étude de la société d'agriculture, il faudra qu'on parle de la famille de Puymarais, parce qu'elle a joué un rôle très important dans cette société d'agriculture. Voilà, je vous remercie.
Merci.
Pas de questions, ça va. Là, vous avez une fois révisé. Alors, la prochaine fois, en principe, c'est Madame Delbac,
oui,
qui vient d'Auvergne,
d'Aurillac,
et qui va nous parler des Auvergnats qui vont en Espagne, parce que comme les Limousins, ils ont eu aussi un tropisme vers le sud et vers l'Espagne.
Mais
c'est pas vers Cadix.
Non, Madrid et Chinchón, la banlieue de Madrid.
Madrid et Chinchón.
Chinchón.
Vous avez du soleil, là, c'est dommage. Voilà, merci beaucoup. Alors, ça sera peut-être ici, mais en tout cas pas aux archives, puisqu'il y a toujours cette exposition que je vous conseille de voir. Elle est donc, il y a des belles robes.
Je n'ai pas vu qu'il y a
des robes. Oui,
je sais pas, ça date de 1900.
Oui,
c'est une côte irénaire. Et puis en plus, c'est des mots.
Et c'est ça, il vient juste
foucher le nom sur les textes. Et puis alors notre prof de maths, là, enfin le matheux, il donne aucun signe de vie.
Ah oui,
absolument. On a même